Usted está escuchando
Terre d'Alliance.
Tierra de Alianza.
Usted está escuchando Terre d'Alliance.
Sur France,
France
Inter.
Inter.
France Inter.
Con Alexandre Héro.
Je suis francophile. Bien sûr, francophone. Mais par contre, totalement anti-France-Afrique. À cause de nos histoires partagées, la plupart des gens mélangent trop la France, les Français, avec l'État français. Et pire encore, avec la France-Afrique.
Des paroles comme celle-ci, à Madagascar, vous en butinerez beaucoup, très chers auditeurs francophones et francophiles. Et cela souligne et résume assez bien ce que sont aujourd'hui devenus nos rapports ambigus avec l'ancienne colonie française que fut Madagascar dans l'océan Indien, au sud de l'équateur, en face des côtes septentrionales du continent africain.
Terre d'Alliance, Alexandre Héroux, sur France Inter.
Aujourd'hui, c'est notre première journée passée au sein de l'Alliance française de Tana à Mada, de Tananarive, pardon, Antananarivo, d'ailleurs, à Madagascar. Madagascar, que l'on appelle communément la Grande Île, car c'est la cinquième plus grande de notre petite planète que nous sillonnons tout cet été en compagnie du réseau de l'Alliance française. Elle a la superficie de la France et du Benelux réunis. Nous n'aurons pas la prétention, avec nos hôtes de l'Alliance française, durablement et densément implantés là-bas, sur ce territoire francophone, nous n'aurons pas la prétention d'en faire le tour de cette île-continent que l'on baptise aussi l'île rouge, en référence à la couleur de la latérite qui colore ses plateaux. Cette île est un véritable condensé de tous les paysages de l'immense continent africain, et elle fascine tous les voyageurs attirés par sa richesse, la richesse aussi de sa faune endémique, aujourd'hui gravement menacée, comme son sous-sol, impunément pillé. Madagascar, si l'on continue à la décrire en utilisant des superlatifs, est aussi l'un des pays les plus pauvres de la planète en termes de niveau de vie, l'un des moins avancés selon l'ONU. Tananarive, l'ex-capitale administrative des royaumes successifs de Madagascar jusqu'à la mainmise de la France en 1895, est une ville croupissant sous la misère 56 ans après son accession à l'indépendance en 1960. Cela est malheureusement le constat que le délégué général des 26 alliances de l'île, réunissant le plus grand nombre d'élèves de tout le réseau des quelques 813 alliances françaises à travers le monde, c'est malheureusement le constat qu'on ne pouvait pas éluder en se rendant au siège des alliances dans la capitale exsangue avec son conducteur de taxi préféré.
Pour ouvrir la porte du conducteur, il faut tripoter le moteur. Qu'est-ce qui se passe? Là, c'est fâcheux pour un taxi que la porte du conducteur ne s'ouvre pas. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre de clients?
Non, c'est bloqué. C'est tout simplement bloqué.
C'est un peu comme le pays, il est un peu bloqué.
Bien sûr que oui, c'est normal.
Mais on trouve toujours une manière de débloquer les choses.
Oui, bien sûr que oui.
Avec un peu d'humour aussi, ça aide.
Bien sûr que oui.
Ça y est, la porte s'ouvre. Oh. C'est quoi comme modèle, ça? C'est une R9?
Renault 9.
Il n'y a plus qu'à Madagascar qu'il y a des Renault 9 comme ça, non? Enfin, ceci dit, il y a un truc qui est très plaisant quand on arrive de France, c'est les deux chevaux.
Les deux chevaux, oui. Les deux chevaux, c'est une vieille voiture que Malgache apprécie beaucoup. Il y a encore des deux chevaux qui roulent très bien à Madagascar, surtout à Tana.
Ouais.
Et c'est économique. C'est économique. Et les taxis aiment le conduire. Et c'est adapté aussi à la rue, à l'état de la rue à Tana.
Donc, là, c'est le moteur qui démarre plus, là. Le carburateur.
C'est le carburateur, système de combustion qui marche.
Donc là, on
est obligé de faire le contre-attaque.
Contre-attaque en arrière.
En arrière, oui.
Oula. C'est pratique que la ville soit comme ça, la ville des 12 collines. Il y a toujours des... on peut toujours reculer. L'Alliance française de Tananarive est dans un quartier populaire. D'ailleurs, sur certains guides, vous avez remarqué, Marc Sarrazin, on l'appelle quartier populaire.
Oui, pas Marc Sarrazin qu'on appelle quartier populaire, mais le guide l'appelle comme ça. Non, c'est vrai, le quartier s'appelle Andavamamba. Et l'Alliance est implantée là depuis un peu plus de... la date exacte, un peu plus de 20 ans maintenant. Ouais. Voilà.
C'est-à-dire qu'elle n'a pas toujours été là. En 1947, quand elle a été créée, c'était à quel endroit?
Elle était dans le centre-ville, dans les hauteurs. L'Alliance a pu acquérir un terrain et puis progressivement elle a construit plusieurs bâtiments. Et puis voilà, maintenant c'est une très belle Alliance, on en est très fiers et on continue de la grandir.
C'est une ville dans la ville parce que vous avez près de 9000 personnes qui chaque année, bon an, mal an, apprennent le français. On les appelle comment d'ailleurs, ceux qui viennent ici prendre des cours?
Oh, nous on les appelle des apprenants ou des étudiants, voilà.
Apprenants, je trouve ça joli.
Oui, parce qu'en plus, il y a des enfants. On commence à donner des cours à partir de, pour des enfants de 3 ans, déjà, et puis jusqu'à pas d'âge.
Et l'avantage d'être au sein d'un quartier populaire, c'est d'être au sein de la cité, pas coupé du monde réel, avec une vraie emprise.
Oui, puisque les gens qu'on touche sont quand même des gens, alors sont pas les plus pauvres, mais c'est, on peut pas dire des classes moyennes non plus, parce qu'il y en a pas, mais une sorte de classe intermédiaire, ni riche, ni très pauvre, mais voilà, on a des cours avec des tarifs bas pour que les gens puissent y accéder.
Il y a même quelqu'un qui va nous ouvrir la porte. On dit que le maillage, justement, ce réseau des alliances françaises ici, dans l'île Rouge, on dit que c'est la principale marque. Ce qu'il reste de la francophonie ici.
Le réseau des alliances, hein, je sais pas, le réseau des alliances a commencé en 47, mais en fait il s'est beaucoup développé au moment de la malgachisation. Ça donne l'impression, alors est-ce que c'est vrai ou pas, je n'en sais rien, mais on a l'impression que ça a été une forme de contre-pouvoir, que les alliances françaises se sont développées au moment où Madagascar a opté pour une malgachisation qui était, voilà. Et y a des gens qui tiennent effectivement à la langue française. Beaucoup de gens tiennent à la langue française. Après, l'image de la France, par contre, est moins, sans doute moins positive. Hein. Mais en tout cas, les alliances françaises portent la francophonie et personne ne trouve rien à redire à cela. L'Alliance française, elle n'est française que dans le nom. Elle a dans chaque pays une autre nationalité, on va dire à Madagascar, l'Alliance française est malgache. C'est une association de droit local, elle est gérée par des personnalités aussi du pays, malgache, et voilà, qui œuvre finalement à la promotion de la langue française, ça c'est sûr. Après, il y a, alors vis-à-vis de la France, je veux dire, il n'y a pas toujours un amour, on va dire. C'est l'ambivalence, c'est peut-être l'amour et le désamour, je veux dire. Donc c'est ce côté qui est un petit peu difficile à vivre. La France ici serait responsable de tous les maux, ou quand c'est pas la France, ce serait les Français installés à Madagascar, ou quand, enfin voilà. Et on vit avec, mais je veux dire, l'Alliance, elle, ne souffre pas de cette situation-là. Parce que ce qu'on fait, on le fait vraiment avec amour, et on pense que ça a vraiment du sens. Cher président, oh, un président honoraire, on l'appelle toujours président, vous êtes d'accord avec ça?
Voilà.
Vous êtes venu avec la jeune génération. Quel âge il a?
Bon, il a 13 ans. Il vient toujours avec moi. Il m'est très attaché. Et j'essaie de lui inculquer, enfin, le virus que j'ai attrapé très jeune. Mais ça ne prend pas toujours.
Ce virus, c'est?
C'est la lecture, c'est la culture, c'est la langue française, c'est les langues, c'est tout ce qui enrichit, quoi.
Julien Racotona, et vous, je pensais, oui, effectivement, qu'on allait commencer ensemble cette petite rencontre par parler de cette langue française qui a fertilisé toute votre vie, puisque vous êtes écrivain, puisque vous êtes journaliste aussi, puisque vous avez travaillé pendant de longues années. Et encore aujourd'hui, vous me dites que vous avez un poste au ministère de la Culture, c'est-à-dire que à l'âge de la retraite, vous abandonnez rien, vous ne lâchez rien.
Non, pas du tout. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a jamais de retraite. On ne finit jamais. de se cultiver, on ne finit jamais de découvrir et puis de nous enrichir mutuellement. C'est une histoire qui a commencé très tôt et qui ne finira jamais, qui finira avec la vie. Et peut-être même après, je ne sais pas, j'imagine le paradis comme un endroit où on rencontre des tas de gens enrichissants, des dialogues intéressants et puis beaucoup de livres, beaucoup de musique. Donc c'est un peu ce qu'on vit ici, mais en mieux. Et en mieux, puis avec l'espoir que ça durera indéfiniment.
Alors Julien Rakotona, et vous ne m'en voudrez pas si on n'égrène pas pendant le bref temps de notre rencontre toutes les médailles que vous avez reçues, tous vos titres honorifiques. Mais l'homme de lettres que vous êtes avait aussi la mémoire. L'histoire des alliances françaises a commencé une bien étrange année.
L'année 1947. L'année fatidique où s'est passé un grand mouvement, un soulèvement à Madagascar, dans toutes les mémoires encore, qu'on appelle la rébellion, les tabatab, c'est-à-dire les violences, ou on appelle encore plus pudiquement les événements de 47. Si on ne veut pas trop se compromettre ou ne pas trop s'étendre sur la question.
Alors que c'était une véritable insurrection qui a été réprimée dans le sang et que c'était un des plus grands crimes de l'histoire coloniale française.
Tout à fait. Tout à fait. On parle de 80 à 100 000 victimes parmi donc les insurgés.
1947, c'est l'année de naissance de l'Alliance française ici, un mois avant ce 29 mars que l'on vient d'évoquer.
Oui, tout à fait, voilà. Bon, je ne sais pas, je voudrais juste me contenter de dire que le hasard du calendrier ou le hasard de l'histoire, ou est-ce qu'il faut établir une relation de causalité, de cause à effet entre la naissance de l'Alliance française et puis presque un mois après, donc, cette révolte qui éclate.
Les rebelles ont tous été éliminés ou capturés. Les autorités militaires ont repris la situation en main. Ce n'est pas en volant et en tuant que l'on construit un pays civilisé. Des milliers de vos compatriotes sont morts pour une cause sans espoir. Et vos armes ? Les voilà, contre nos mitrailleuses automatiques. Ce n'est plus une révolte, c'est un suicide.
Bon, un mois après la création, l'implantation de l'alliance, la première alliance française en Antananarivo.
Avec la volonté de qui ?
Oh, disons, enfin, pour user d'une terminologie peut-être un peu bateau, les personnes de bonne volonté, ceux qui étaient, assoiffés d'une plus grande ouverture aussi quand même. Et c'est ça l'ambiguïté ici chez nous à Madagascar. Une ambiguïté, c'est l'amour et le désamour, c'est le je t'aime et le je t'aime moi non plus. Je crois, c'est ça.
Avec le français, avec la France, avec cette langue aussi.
Voilà, avec cette langue, c'est je t'aime moi non plus, c'est l'amour et le désamour, mais c'est finalement une vieille histoire, c'était une vieille histoire d'un vieux couple, finalement, enfin le couple franco-malgache, par les aléas de l'histoire, les vicissitudes, mais ça tient le coup quand même. Et puis après tout, je crois que finalement, lorsque l'un des partenaires dit « je m'en vais », c'est le « je m'en vais, mais retiens-moi ». Voilà. Donc, où est-ce que je voulais en venir ? Je veux en venir au fait que, la langue française, la culture française, auquel nous sommes nourris de cette langue, de cette culture française, sans renier la culture et l'identité malgache. Je crois personnellement, moi, mais je crois qu'il y a encore beaucoup de compatriotes qui sont dans cette situation. Nous avons la chance d'avoir notre langue unique, parler d'un bout à l'autre de Madagascar, et puis notre culture, mais à côté de cela, ou en même temps que cela, la langue et la culture française, qui ne nous empêchent pas de retrouver nos racines. Je ne vais pas jusqu'à dire comme Senghor qui dit « j'exprime mieux ma négritude en français », je dis « j'exprime mieux ma négritude en malgache », mais j'ai la chance de pouvoir m'exprimer en français et de m'affirmer par rapport à cette belle culture et cette belle langue française.
C'est assez joli. Très cher Julien, vous dites ceci au moment où l'écho du spectacle de ce soir est en train d'arriver à nos oreilles ici à la bibliothèque. Ils sont en train de répéter Madafeo, se produira à l'Alliance. Et puis voilà quelque chose aussi qui est très associé à la culture malgache, c'est le chant.
Oui.
Fatu susi vula mena ukuni andamen. Itawa mina wafkuni arena sarubit. Fatu susi vula mena ukuni andamen. Zara kamami kuni tani kutate. Zara kamami kuni tani kut. Zara kamami kuni tani kumame. Zara kamami kuni tani Re walla mai tsuma vana mapiava kanao pula fanunia feta tia fruza kuanao Re walla mai tsuma vana mapiava kanao pula fanunia feta tia fruza kuanao Mi vaini sai mandalu avia tani de tamano nuniti ambara telu nauri nusikiu Mi vaini sai mandalu avia tani de tamano nuniti ambara telu nauri nusikiu Zara kamami kuni tani kuzuke, Zara kamami kuni tani kyu, Zara kamami kuni tani kuzande, Zara kamami kuni tani kyu.
France Inter.
Bienvenue à l'Alliance française d'Antananarivo.
Terre d'Alliance, un voyage planétaire au sein des Alliances françaises.
Manaono, Tungasuam, Natomni, Alliance française d'Antananarivo.
Alexandre Hérault.
Joro est arrivé.
Bonjour.
C'est la mauvaise blague que vous font tous les Vazas, tous les Français, parce qu'en fait vous vous appelez Jor.
Jour.
Ça s'écrit comment?
J-O-R-O.
Pour un Français, ça donne Joro.
Voilà.
Et alors il s'amuse et il rajoute un Z.
Z et puis je pense que c'était avec deux R, le Zoro. Mais moi c'est Jour. J-O-R-O.
Peut-être que si on commence comme ça, Jour, c'est qu'il y a énormément de différences entre le français et le malgache. Et apprendre le français quand on est malgache n'est pas forcément tout à fait une chose naturelle.
Franchement, ce n'est pas évident. La langue malgache et la langue française, ce sont deux langues très différentes au niveau aussi bien sur l'écriture que sur la prononciation. C'est tout à fait différent l'une de l'autre.
Pour se rendre compte de cette différence et de ces difficultés, de ces embûches, alors je prends votre carte de visite de responsable de la cellule contrôle technique de construction qui vient prendre des cours en C1, ce qui est un niveau élevé pour préparer le diplôme avancé de langue française, le DALF.
Oui.
Le nom de famille, c'est Randriano Tagnana.
Randriano Tagnana.
Et ça peut parfois être beaucoup plus compliqué.
Très compliqué, parce que si je détaille un peu, mon nom c'est Rangia Nutahiana, on peut le séparer en deux. Rangia, la première partie, et Nutahiana, c'est la deuxième partie. Rangia, c'est pour marquer une grandeur d'une personne. Vous voyez, par exemple, à l'époque du roi Anjiana Punmen, son nom ça commence par Anjiana. Anjiana, ça veut dire la noblesse. Ça marque la supériorité, c'est ça. Et la deuxième partie, Nutahiana, ça veut dire béni, béni par Dieu. C'est-à-dire, mon nom, si je résume un peu, c'est un homme béni, un grand homme béni. Et Juru, ça veut dire quelqu'un qui se tient toujours debout. Voilà. Historiquement, les Malgaches venaient de Malaisie, Indonésie, de l'Afrique de l'Est, et puis de l'Inde, Mais la langue malgache se ressemble, à ma connaissance, un peu de l'Indonésie et de la Malaisie. Même à Madagascar, il y a officiellement 18 ethnies. Les gens qui habitent dans les hautes terres, la partie centrale de Madagascar, en général, ce sont des Merna et des Betsileo, dans la partie un peu sud, Fianarantsoa. Apparemment, donc, ces deux ethnies qui occupent la terre centrale venaient de la Malaisie et de l'Indonésie.
Le malgache ne se parle qu'à Madagascar. Le français se parle dans tous les pays francophones. Ici, on va accueillir le 16e sommet de la francophonie au mois de novembre. Ça veut dire que quand on est à Madagascar, parler français, ça devient quelque chose de presque indispensable si on se projette dans un tout monde, dans quelque chose qui dépasse les simples frontières du pays.
Oui, effectivement, la langue française, pour les malgaches, donc, ça devient de plus en plus indispensable, surtout quand on veut aller au-delà de notre vie courante. C'est-à-dire, Madagascar, c'est une île, donc on a toujours intérêt à savoir ce que les gens ailleurs font. On ne peut pas être isolé dans cette île, il faut apprendre la langue des autres. Et la France, c'est un pays qui a une histoire liée à Madagascar.
Pendant longtemps, pendant quelque temps en tout cas, ça a été la langue du colonisateur. Et donc, ça a été aussi une langue qu'on a voulu, à un moment donné, non pas rayer, mais en tout cas effacer un peu.
Moi, personnellement, j'ai vécu donc la moitié de mes études primaires dans l'époque de la malgachisation.
Qui a commencé avec Didier Ratzirak en 1975, avec l'amiral.
Avec l'amiral, voilà. Donc, c'était la politique à l'époque, donc tout a été malgachisé. À l'école, on a appris toutes les matières en malgache, sauf le français, évidemment. Donc, pendant 9 ans, j'ai fait mes études en malgache, toute matière. La langue française, je pense que même si on a voulu supprimer la colonisation, cet esprit-là, je pense que la langue française, on ne peut pas l'abandonner parce que nous, actuellement, on vit dans ce qu'on appelle mondialisation. La langue malgache ne suffit pas, tout le monde le sait. Si on reste à la maison sans vouloir aller ailleurs, on est prisonnier. Nous, donc, la génération actuelle reconnaît que il faut apprendre la langue française. Pas dans le sens qu'on veut rester sous la direction de la France, mais c'est la réalité des choses. Il faut l'apprendre.
Kabari nareo, anrobo zai, la mi vola nareo, mi jonji zai.
Michel Rakotson, on est dans la grande salle, le qui ressemble à un hall magistral de l'Alliance française. Il se passe plein d'événements.
C'est vrai que c'est un beau hall. Ils l'ont bien aménagé parce que ça aurait pu ressembler à un garage. Et en fait, non, là, c'est Là, il y a quelque chose. Et puis, en fait, c'est un endroit où il y a plein de choses qui se passent, où ça vit, où ça vibre. Et on le sent. Ils ont mis des tableaux, ils ont mis des expos d'enfants.
D'ailleurs, il y en a un qui se casse la figure.
Il y en a un qui s'est cassé la figure. et en plus, ce que je trouve sympathique, c'est que c'est pas très occidental. Il y a un cachet malgache qui s'est installé, un petit côté un peu bric-à-brac, bricolé. Et non, c'est sympa.
Et là, on a derrière la scène, parce qu'il y a une grande scène, il y a toute une série de micros qui sont agencés avec une table où votre nom est inscrit, Michel Rakonson. Ici, on vous connaît parce que vous êtes la célèbre dramaturge revenue au pays. À vrai dire, ça fait quand même un petit moment et vous vous y attachez après des années passées à RFI aussi, où tout le monde là-bas, toute la diaspora vous connaissez. Et ce retour au pays natal, pourquoi vous l'avez planifié ?
Ben, je l'ai planifié pour une raison pure et simple, c'est que je ne supportais pas l'exil. Je ne l'ai jamais dit, mais c'est vrai que c'était un exil, et même un exil politique. Mais là, je me suis tue. Parce que c'est pas la peine d'avoir le rôle de martyr. Parce que, en contrepartie de cet éloignement du pays, j'ai vécu des choses extraordinaires en France. En travaillant à RFI, c'était vraiment le monde qui vient à RFI. J'ai développé ma culture à Paris. Parce qu'on peut dire plein de choses de Paris, mais Paris, c'est je ne sais pas si c'est encore ça, il y a longtemps que je ne suis pas rentrée, c'est la ville lumière, il y a des bibliothèques, il y a des musées, il y a plein de gens qu'on rencontre, et des gens du monde entier. Et ça, il ne faut pas que la France oublie ça, que le monde entier vient à Paris, et que c'est extrêmement important. Paris a un côté magique, et il ne faut pas que Paris oublie ce côté magique qu'il a.
Et qu'est-ce que de magie Tanana arrive à garder ?
De magie, Tananarive va garder les vieux quartiers. Alors, il faut vraiment aller se balader dans les quartiers. Il y a des quartiers historiques, il y a toute la vieille ville. Et puis maintenant aussi, Tananarive est en train de devenir une ville où beaucoup de gens se retrouvent. Il y a l'exode rural, mais il y a plus que ça. En fait, ça commence à devenir petit à petit la capitale de l'océan Indien. Enfin, il y a ce que je trouve magique à Madagascar. C'est vrai, j'ai dit tout à l'heure de briques et de broc, mais malgré la misère, parce qu'il y a une misère terrible, les choses se font. Il y a quand on commence à sortir du syndrome de la pauvreté, de se dire on est les plus pauvres du monde, quand on commence à sortir de là, on s'aperçoit qu'il y a des gosses qui font plein de choses. Qui les font avec les moyens du bord, et ça, ce côté-là, c'est magique et c'est en permanence.
En l'occurrence, depuis 2012, l'Alliance française vous soutient dans ce concours de nouvelles qui vous tient à cœur et qui est en train de s'organiser aujourd'hui. C'est pour ça que vous avez convoqué la presse, que là, l'Alliance, dans une demi-heure, la conférence de presse a lieu. C'est pour ça qu'il y a votre nom sur cette table. Il s'agit de faire quoi ?
Écoutez, on est un pays du bout du monde et les éditeurs se plaignent en disant oui, il n'y a pas de diffusion, c'est très cher. Alors je me dis ok, dans ce cas, on fait avec ce que l'on a. Et ce que l'on a, c'est quoi ? C'est des jeunes gens qui sont forts en informatique. Donc pourquoi ne pas développer l'édition en ligne ? En travaillant effectivement de toute façon avec des juristes qui vont nous aider à garder les droits d'auteur, parce que là c'est compliqué. Et pourquoi ne pas faire de la micro-édition ? Donc l'idée, c'est un truc très simple. Les jeunes qui seront sélectionnés auront leurs textes sur Internet, édités en radio, enregistrés, réalisés en radio. Donc ils auront la chance d'entendre leurs textes sur une radio. Et après, de voir le texte sur Internet. Et après, il faudra voir s'il y a des gens qui veulent acheter leur texte. On fait de la micro-édition suivant la demande. Tout le monde a joué le jeu.
Et l'Alliance française ?
Et l'Alliance française qui est le principal partenaire et qui nous a vraiment... Et là, vraiment, je ne peux que les remercier et vivement parce qu'ils ont joué le jeu et ô combien. Et très discrètement, il y a eu des problèmes matériels comme dans tout pays pauvre. Et discrètement, M. Sarrazin a dit « je prends en main, je prends en main, je prends en main ». En plus, l'Alliance française, je ne sais plus combien il y a d'alliances françaises dans Madagascar.
Il y a un réseau de 26 alliances qui émaillent le pays.
Donc il va y avoir, ce concours va partir, il va y avoir de la pub de ce concours dans 26 alliances. C'est dans tout Madagascar, c'est quand même, le numérique internet c'est quand même quelque chose de fabuleux parce que ça permet de démultiplier tout à la vitesse grand V. Dans un pays comme Madagascar, à un moment donné, on serre les dents, on dit j'avance, 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 j'avance et j'avance. Et je pense que qu'il y a peut-être là une solution. De toute façon, plus il y aura de solutions, mieux ça ira.
Je vous laisse accueillir tout le monde avant que ça commence.
Bonjour à tous et merci d'être venus aujourd'hui nous rejoindre autour de cette conférence de presse pour le lancement du concours de nouvelles. Madagascar fait partie des pays de l'océan Indien à avoir développé une réelle littérature francophone, pour ne citer que Rabbi Manandar, Jean-Joseph Rabéarville, et même jusqu'à aujourd'hui, nous possédons une littérature francophone contemporaine représentée par Michel Le Racoutson, ici même, qui a reçu la Grande Médaille de la Francophonie en 2012. Pour en parler plus amplement, nous recevons aujourd'hui Madame Mireille Racoutmalal, de la délégation générale pour l'organisation de ce 16e sommet de la francophonie.
Merci de moi, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous revoir depuis la dernière fois.
Très chère Mireille Racoutmalal, on vous a quitté il n'y a pas si longtemps au sein de l'Alliance française de Tananarive. Vous vous présentiez à la presse un concours, la nouvelle édition du concours de nouvelles, et puis ça tombe bien parce que vous y êtes associé. Le thème était sur la francophonie cette année, et là on est dans un autre bâtiment qui ne bruisse pas encore de toutes les délégations des 80 pays que Madagascar s'apprête à accueillir pour le 16e sommet de la francophonie en novembre prochain.
Absolument. Aujourd'hui, vous êtes arrivé sur une journée très calme. Et là, nous sommes en effervescence pour préparer ce sommet avec toutes les équipes, les commissions, bien structurées, etc.
Ça représente quoi, vous qui avez été ministre de la Culture pendant un temps, Mireille Racoutmalal, qui est aussi une pianiste émérite, entre autres qualités, une grande concertiste, la francophonie aujourd'hui, et surtout retrouver Madagascar au centre de la scène internationale?
Écoutez, moi je pense que c'est une très bonne chose. Donc moi, c'est tout à fait une logique que Madagascar tienne ce sommet actuellement. Et je ne vous cache pas qu'en 2006-2008, j'étais parmi une des chevilles ouvrières qui avait aussi préparé ce sommet à l'époque, qui malheureusement, en 2009, n'a pas pu avoir lieu.
Et pour cause de coup d'État?
Peut-être. Et il y avait aussi le sommet de l'Union africaine. Donc cette fois-ci, on ne doit pas rater le coche. Quoi qu'il advienne, il faut que ce sommet ait lieu et qu'il soit d'un très haut niveau. Voilà, je pense pour l'honneur de Madagascar, c'est un devoir. Voilà. Autour du sommet, il y a plusieurs thématiques qui doivent être traitées parce que la francophonie, ce n'est pas seulement la francophonie économique comme la thématique que Madagascar a choisie, qui est vraiment une première au sein de la francophonie, mais il y a la francophonie culturelle, diversité, environnement, biodiversité. Vous voyez, la francophonie, c'est quelque chose qui grandit, qui grandit, qui grandit, selon le contexte mondial. Donc, ce n'est pas quelque chose de figé. Si au début, c'était évidemment la raison première, c'était la langue française, mais après, c'est quelque chose qui évolue, comme toutes les organisations internationales, et qui s'adapte très, très bien, d'ailleurs, à la mondialisation.
C'est la salle numéro 15, il paraît. On est accueilli par vous, très cher John. On interrompt un peu le cours.
D'accord.
Vous avez remarqué d'ailleurs que dans cette salle de classe, on voit au fond, on voit le palais de la reine.
Oui, alors ça quand même, c'est... Disons que pour nous, Tananariviens, le palais de la reine, c'est presque... On le voit tous les jours et on ne voit pas un peu sa beauté ni quoi que ce soit. Mais par contre, quand un vaïni, c'est-à-dire un visiteur, nous parle de ça, c'est là que l'on s'aperçoit, oui, c'est vrai.
C'est quoi la France?
C'est un pays.
C'est pas un rêve.
Ouais, un pays, je dirais, évolué, très discipliné.
La France, c'est un pays développé et elle fait même partie de la G8.
Mais qu'est-ce que vous aimez alors, vous?
Bon, déjà la langue. J'aime la langue française. J'aime aussi...
Si je vous offre du parfum,
Ah, j'aime, j'adore. J'adore de Dior. J'adore. Oui.
Qu'est-ce que vous aimez de la France?
Bah, presque tout. Tout ce qui est de marque française, c'est bien.
Made in France. Une autre question, ça serait la France. C'est qui pour vous?
France, dans ma tête, en premier lieu, c'était notre colonisateur, le pays qui nous a colonisés. Et à Madagascar, il y a toujours une trace des Français.
Donc, Gallieni et tout ceci.
Oui, comme toujours, il y a des bons Français, il y a des mauvais Français. Il y a ceux qui nous ont, disons, le mot tuer, c'est plutôt trop direct. Mais je dirais que c'est le mot approprié. Mais il y a aussi les bons Français qui nous ont amené une évolution, des possibilités pour pouvoir évoluer. La construction des bougies et tout ça.
Des bougies?
Oui.
C'est quoi les bougies?
Ce sont comme des petites lanternes.
Ah oui, des chandelles, des petites choses comme ça?
Oui, les bougies quoi. Je ne sais pas comment expliquer.
Ce sont les Français qui ont amené des bougies, c'est ça professeur?
Avant on utilisait beaucoup plus, par exemple, la lampe à huile, etc. Beaucoup plus peut-être. D'ailleurs, ils ont introduit le produit et le nom. Parce qu'en malgache, on dit la bougie. Avec l'article, attention. Donc,
il y a d'autres mots comme ça?
Beaucoup. La tabacha, la table. Par contre, pour la chaise, ben c'est chaise. Donc on a laissé tomber l'article. Bon, ben, mais il y a eu beaucoup d'emprunts.
Mais sur cette question, peut-être que la dernière qu'on vient de poser...
La colonisation, c'est toujours... c'est une douleur. C'est une douleur pour nous, ce que l'on a vécu. Que ce soit sur le plan national, mais aussi sur le plan peut-être même familial, individuel. Nous avons peut-être quelques parents qui ont été victimes. Mais on ne peut pas effacer le passé. Mais on peut en tirer des leçons, je pense. Comme pour la langue, ben, c'est un outil. Et on peut se blesser avec cet outil si on ne sait pas le manipuler. Par contre... Si on l'utilise à bon escient, ben ça devient un facteur. D'ailleurs, n'oubliez pas que la langue française, c'est une langue de valorisation sociale, mais aussi professionnelle. Par exemple, la COI, la Commission de l'Océan Indien, on parle beaucoup le français, hein, que ce soit les Comores, Madagascar, Seychelles, Maurice même, et tout ça, la Réunion. Mais disons que c'est maintenant qu'on commence vraiment, je pense... à s'intéresser et à trouver notre intérêt parce que finalement, j'ose pas dire on est forcé, mais on a intérêt à exploiter ce filon qu'est la francophonie.
Cette cafétéria de l'Alliance française ici de Tananarive, Bécoute.
C'est très ouvert, c'est très sympathique. Et ce qui est incroyable avec cette alliance-là, c'est dans un quartier très populaire, mais qui arrive à garder sa personnalité dans un coin, disons, assez spécial. C'est très ouvert, quoi. C'est une porte ouverte.
Ça a toujours été considéré comme ça pour vous, la mission de l'Alliance française?
L'Alliance française, les alliances françaises sont quand même un peu spéciales. C'est pas la France comme on veut, quoi. C'est vraiment des gens qui bossent, des Vazas qui sont très ouverts, qui sont très curieux. Mais c'est un peu spécial, les alliances, quoi.
Et les alliances françaises sont malgaches?
Évidemment, il y a un peu de ça. C'est une collaboration franco-malgache. Mais avec une certaine... Bien sûr, c'est toujours la France quelque part, mais avec une bonne reconnaissance et un bon équilibre avec le malgache. Et c'est ça qui est bien. Ce qui m'avait intéressé avec l'Alliance française, quand une fois j'avais dit à l'équipe, vous dites Alliance franco-malgache, mais je ne vois même pas des ouvrages malgaches. Et le conseil d'administration avait ouvert la première bibliothèque malgache-malgache chez nous. Et c'est ça qui est fantastique, cette capacité d'ouverture.
Celui qui nous parle, c'est l'un des sept héros de ce groupe qui est connu de tous ici, Maelo, et qui a fêté ses 40 ans de scène il y a peu, d'ailleurs avec un concert triomphal, et c'était à l'Olympia. C'était la deuxième fois que vous alliez, que vous remplissiez l'Olympia. Mais ici, quand on vous appelle les sept héros, c'est pas pour rien, c'est que vous avez accompagné la révolution de 1972, où il était possible encore de croire qu'il y avait un nouveau point zéro pour l'histoire du pays.
Ah oui, c'est... Oui, point zéro, c'est bien dit, parce que en 72, c'était surtout pour moi, une révolution très culturelle. Les Malgaches, à cette époque, désiraient être très malgaches. Il y avait carrément fait la rupture avec la France, la langue française. Et dans cette dynamique de rupture, de changement brutal, nous étions allés en brousse, là où la langue malgache est encore pure, fraîche. Et c'est à partir de la brousse que j'ai commencé à composer avec des mots très malgaches et que j'ai remonté tout ça, en ville et à l'extérieur. Et d'un certain côté, le malgache se retrouvait avec lui-même déjà, à cette époque, à l'état zéro. Et c'est à peu près, mais actuellement, j'ai rien à dire parce que c'est, disons que le malgache est toujours là. Et malgré une certaine invasion de toutes les langues, y compris le français, maintenant on apprend le chinois. Hein. Bon, il y a les Indiens, disons la langue c'est quelque chose qui vit, et les alliances françaises, il y a un peu un lieu de rencontre de tout le monde, Vaza ou Malgache, ou Indien ou Chinois. C'est un lieu de socialisation de toutes les races, de toutes les gens qui passent ici. Parce que Madagascar, c'est une île, c'est ouverte, il y a de la place pour tout le monde. Et c'est un des points très importants de l'alliance, cette espèce d'alliance, quoi, de rassembler les gens, de socialiser les gens, d'apprendre à connaître l'autre. C'est une aventure, hein, mais jusqu'à maintenant, c'est sympa.
On va quitter les murs et on va aller vers l'Institut des langues ici à Tananarive.
Oui, nous allons donc aller à l'Institut des langues malgaches. C'est lié à l'Académie malgache et dans cet institut, on fait des grandes recherches ethno-anthropo et linguistiques pour aller dans tout Madagascar chercher le mot initial, la racine mère de chaque mot et le faire figurer dans le nouveau dictionnaire malgache Rakibulana. Et moi, je suis en train d'ajourner certains mots, parce que ce Rakibulana-là explique précisément le sens des mots malgaches.
Terre d'Alliance.
Yamiara Bani.
France Inter.
En Terre d'Alliance, Miarakam ni Alexandre Rosa, comme Zofton Zotanari.
Un voyage planétaire au sein des Alliances françaises.
Magasi.
Avatsa Upem. C'est ici l'association des écrivains et des poètes malgaches, là au premier étage.
Mais c'est assez joli parce qu'on a l'impression de rentrer à l'intérieur d'une petite maison particulière. Il y a un long couloir avec le plancher en bois d'époque, des couleurs assez jolies, des lumières qui rasent là comme ça. C'est une belle photo ça.
C'est donc l'Institut des langues, mais apparemment c'est fermé. Et ça c'est écrit
Andrian Kuntenku Fanyafa Fesk, c'est-à-dire ma langue est absolument suprême, mais je respecte la langue des autres.
Bonjour. Bonjour.
Voilà, c'est les amis, les collègues de l'Institut des langues qui font des recherches sur la langue malgache au malgache à travers le collecte de toutes les 18 dialectes de fond. Parce que la langue malgache, au fond, est perdue dans le temps. Il y a du sanskrit, il y a du swahili, etc., etc.
On appelle ça une langue d'origine austrasienne.
Austrasienne, oui. Il y a même un peu du chinois dedans, de l'arabe, tout ce qu'on veut. De toute façon, c'est la langue malgache.
Malagasy.
Oui, on lui dit la langue malagasy. Et ici, l'Institut produit des ouvrages pédagogiques. Là, c'est la traduction du Petit Prince, là, de Saint-Exupéry en malgache. En tant que Saint-Exupéry, il a un diandai keli, ou le Petit Prince, qu'on a traduit en malgache et qu'on apprend aux élèves.
Eritiana, on est envahi par les sons, un peu tous différents. Ça va, là, il y a une boutique de coiffeur, une toute petite boutique de coiffeur. Là, on est en train de préparer je ne sais pas quoi dans ces gamelles. On vend des livres à côté. Il y a même un atelier de sérigraphie quelque part. Tout ça dans des petites baraques en tôle qui forment un petit village dans la ville. On est où ?
Là, on est à Mbouzatouf. C'est aussi en plein cœur d'Antananarivo, de la ville, de la capitale. C'est un quartier où il y a tout ici en Mbouzatouf. On a les marchands de lunettes qui sont juste derrière. On a les marchands de vieux livres. On a des petites quincailleries. On a ce qu'on appelle les bouffes rapides. Là, ils sont en train de préparer le repas pour le midi pour tous les gens qui travaillent aux alentours. Même eux ici, tout le monde, bon, ils viennent ici pour manger directement.
Bon, là, il y a tous les livres d'occasion pour passer le bac. Un des soucis quand même du pays, c'est l'éducation. C'est une préoccupation pour chaque famille, et c'est peut-être aussi, on peut le dire, mais ça va vous paraître un peu sévère, tous les enfants ne vont pas, encore aujourd'hui, à l'école, et loin de là.
Mmh. Oui, c'est surtout dans les périphériques, dans les régions éloignées qu'on voit ça, et surtout l'accès aux livres, aux bibliothèques, il y a beaucoup d'étudiants, beaucoup d'élèves qui n'ont pas accès aux livres.
C'est là où la bibliothèque et la médiathèque de l'Alliance française jouent son rôle à plein.
Oui, l'Alliance est là, la médiathèque de l'Alliance est là pour vraiment opérer ce système-là.
Bonjour les enfants.
Bonjour monsieur.
Bonjour.
Hein? Vous êtes passionné par le vente des livres ici, livres à occasion.
Oui, je regardais le livre sur Lénine.
Sur Lénine, là, oui.
À côté d'une instruction civique pour le travail et de la terre malgache. Et après, vous avez toutes les œuvres classiques. Je vois qu'il y a les Philippiques de Démosthène, il y a Ronsard devant moi.
Oui.
Aujourd'hui, qui parle encore français à Madagascar ?
Tout le monde. Tout le monde. La langue malgache est en train de s'effacer devant la langue française. C'est la faute de la colonisation. Le français ici a trop humilié le malgache. Et le malgache en a marre. Vous voyez ce qu'il nous fait. Il nous exploite les richesses. Donc nous allons nous libérer de ces jougs-là.
Mais aujourd'hui, le joug, il vient plus de la France. Le mal est fait, mais aujourd'hui, l'exploitation du sous-sol, l'exploitation du bois rose, toutes ces choses-là sont orchestrées par le pouvoir.
Sur les dirigeants qui exploitent la richesse, s'enrichir, faire des placements aux banques suisses, à la banque suisse ou Dubaï.
Mais je suis content d'avoir rencontré quelqu'un qui continue à lire Marx.
On nous a appris le matérialisme dialectique avec Marx, mais ici, il n'y a pas de liberté d'expression. Il n'y a pas de liberté de presse ici à Madagascar. Les gens ne peuvent pas parler librement pour risquer d'être emprisonnés. Moi, je parle comme ça parce que j'ai confiance en vous. Hein.
Et je vous remercie de cette confiance.
Merci, monsieur. De rien.
Pour rajouter des espoirs aux vieillesses ennemies, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie? Et ne suis-je blanchi par les travaux guerriers que pour voir flétrir un jour tant de lauriers? Mon bras qu'avec respect toute l'Espagne admire, mon bras qui tant de fois a sauvé cet empire, tant de fois a fermé le trône de son roi, trahit donc ma querelle et ne fait rien pour moi. Voilà, c'est le monologue de Don Dieck, le Cid Corneille. C'est tous les mardis à 20h15 sur ACM Radio 103.4 FM. Et je m'accroche, les auditeurs, et puis je crois qu'on leur fait passer quand même un petit... On fait ensemble un petit bout de chemin, et puis je leur fais passer ensemble quelques moments agréables. Et puis, par les temps qui courent, je crois que ce n'est pas superflu.
Vous arrivez à être encore optimiste pour le pays ?
Ah, il faut bien, parce que je crois qu'il n'y a pas de fatalité. Ou on se plaît à le croire, on se plaît à le dire, parce que sinon, si on verse dans un pessimisme trop amer, je crois que ça serait quand même improductif.
Mais jusqu'où pourra aller la résilience, on l'appelle comme ça ainsi, de votre peuple ? Jusqu'où pourra encore continuer la spoliation de ces terres, de son sous-sol précieux, de tous ces trésors ? Jusqu'aujourd'hui, ce qu'on appelle le trafic du bois de rose qui implique les élites actuelles au pouvoir. Jusqu'où pourra-t-on continuer cette énorme manipulation avec la complicité de tous, finalement ?
Oui, effectivement, on est devant un spectacle qui nous déchire le cœur. Quel mal a-t-on fait au bon Dieu, on se dit, hein, pour subir tant d'avanies, pour subir tant de catastrophes. Enfin, la Madagascar, dont on dit à juste titre que c'est une île bénie des dieux, mais maudite à cause des hommes, de ces hommes, certains de ces hommes du moins.
Terre d'Alliance.
France Inter. Tierra de Alianza.
Et c'est sur ces paroles de Julien Racotonaïve, le jeune président d'honneur de l'Alliance française, que se termine notre première journée passée à Antananarive. Mais nous nous retrouverons demain à la même heure, là-bas, tous ensemble, sur l'île, où nous rencontrerons celui dont le nom de scène est sur toutes les lèvres, le slameur Gangsta Bab, qui a décidé de bousculer les mœurs locales en postulant à la candidature suprême. Il me reste à remercier tous ceux qui là-bas nous ont si bien accueillis. À commencer par Marc Sarrazin, le délégué général, et Rindra Drupré à la communication de l'Alliance. Merci aussi à Denis Bisson de l'Institut français et à Désiré Razafindraka. Merci aussi à François Van Rens et à Michel Barré, partenaire de l'Alliance, représentant réciproquement l'Hôtel Carlton et le groupe Orange. Sans partenaire, les Alliances ne respirent plus, il faut le souligner. Terre d'Alliance, c'est une équipe. Léa Minot, notre community manager, qui, assistée de Rachel Chiche, notre stagiaire, ont confectionné le bonus multimédia visible sur le site franceinter.fr qui contient la page de l'émission. Une page qui vous permet de la réécouter et de la télécharger et de nous écrire. Rejoignez-nous aussi sur notre page Facebook et notre compte Twitter, hashtag Terre d'Alliance, programmation musicale. Thierry Dupin, derrière la console de diffusion, c'était Nicolas Slimani, une série réalisée par Bertrand Chaumeton et proposée par Alexandre Hérault avec la Fondation Alliance Française.